Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiyot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإن وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير ولقى الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes, oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 février 2022. Nous avons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. Macron raille ici les non-dits. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, le président Raïssi appelle à l'élargissement des relations bilatérales, régionales et internationales avec plusieurs pays africains. Iran, PGAC, les pourparlers intenses continuent pour relancer l'accord historique à Vienne. Et puis la crise ukrainienne, les ingérences de l'OTAN menées par les États-Unis ont compliqué la situation selon Téhéran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président Raïssi appelle à l'élargissement des relations bilatérales, régionales et internationales Téhéran-Alger. Se référant mardi à la bonne coopération entre l'Iran et l'Algérie, le président Ebrahim Raïssi n'a pas jugé son niveau d'interaction bilatérale suffisant et a déclaré: selon la détermination des dirigeants des deux pays, les relations Téhéran-Alger peuvent étendre sur divers plans bilatéral, régional et international. Ebrahim Raïssi, s'exprimant en marge du 6e sommet des pays exportateurs de gaz au Qatar, s'est entretenu mardi avec le président algérien Abdelmadjid Tebboune, louant l'esprit révolutionnaire et la résistance du peuple algérien face aux velléités maximalistes et puissances colonialistes. L'histoire a montré que la résistance des nations contre les tyrans a toujours été fructueuse, a fait valoir le président Raïssi. Le chef du gouvernement iranien a ajouté: l'Iran et l'Algérie ont une bonne coopération entre eux, mais ce niveau d'interaction n'est pas suffisant et selon la détermination des dirigeants des deux pays, les relations Téhéran-Algérie peuvent être encore élargies au niveau bilatéral, régional et international. Partout où nous voyons l'insécurité dans la région, nous pouvons voir les traces de la présence interventionniste et de la gérance des étrangers, en particulier les Américains, a-t-il déclaré. Par conséquent, la principale solution aux problèmes et à l'insécurité dans la région est de couper la main aux États-Unis et aux étrangers de la région, a insisté toujours M. Raïssi. Le chef du gouvernement iranien a également salué la position légitime de l'Algérie contre le régime sioniste et envers d'autres domaines d'intérêt commun, l'opposition de votre pays à l'adhésion du régime sioniste en tant que membre observateur de l'Union africaine est une étape importante dans le soutien des droits du peuple palestinien opprimé et de la cause de Rhodes. Les capacités de coopération existantes doivent être opérationnalisées et réalisées dès que possible, a fait remarquer encore M. Raïssi. Le président algérien a pour sa part exprimé la volonté de son pays d'élargir les relations d'Alger avec la République islamique d'Iran dans divers domaines, déclarant: notre coopération bilatérale devient opérationnelle et réelle dès que possible. Sachez d'autre part que le président de la République islamique, notant qu'après la victoire de la révolution islamique, l'Iran a toujours eu de bonnes relations avec les pays africains, a déclaré mardi « Les préparatifs de la commission mixte de coopération économique doivent être favorisés pour accélérer l'expansion des interactions Téhéran-Maputo ». Lors d'une rencontre avec son homologue mozambicain, Philippe Nyusi, mardi 22 février, Ebrahim Raisi s'est dit satisfait des remarques de son interlocuteur sur les bons résultats des plans de développement de son pays, ajoutant « Pour la République islamique, les pays africains sont des terres pleines de talents et de riches ressources qui malheureusement ont toujours été pillées par les pays occidentaux au cours des derniers siècles. » Pour sa part, le président du Mozambique a exprimé l'intérêt de son pays pour l'élargissement des relations avec l'Iran. « Nous avons beaucoup de ressources naturelles et nous pouvons bénéficier des capacités techniques des experts iraniens au profit du peuple mozambicain et développer les interactions entre les deux pays », a-t-il fait valoir. Le président mozambicain a ajouté que l'un des problèmes graves du développement auquel est confronté son pays est la propagation de l'insécurité et du terrorisme qui sont principalement menés à alimenter depuis l'extérieur des frontières de ce pays. Lors d'une autre rencontre, toujours à Doha, avec le président de la Guinée équatoriale, le président Raisi a déclaré « Nous faisons de notre mieux pour développer les relations avec la Guinée équatoriale ». Soulignant que les plans nécessaires doivent être élaborés pour la tenue d'une réunion de la commission mixte de coopération avec la Guinée équatoriale, le président Raisi a noté « Nous utiliserons toutes les capacités et zones disponibles pour développer les relations avec la Guinée équatoriale ». Réagissant aux plaintes du président de la Guinée, selon lesquelles aucun des pays européens n'avait fourni d'aide significative au pays pour la lutte contre le virus pandémique de COVID-19 et qu'un nombre important de ses habitants était mort à la suite de l'épidémie, le président Raisi a déclaré « En Iran aussi, si nous n'avions pas fabriqué le vaccin nous-mêmes, les Occidentaux ne nous auraient pas fourni le vaccin. Mais aujourd'hui, 6 entreprises iraniennes produisent des vaccins anti-Covid. » Les pays africains doivent aujourd'hui coopérer avec l'Iran. Le président guinéen a décrit l'Iran comme un grand pays, a déclaré que les pays africains ont été colonisés par les pays occidentaux pendant des années. Aujourd'hui, il revient aux pays africains de travailler avec les pays indépendants comme l'Iran pour tirer parti de leurs riches ressources en Afrique, a-t-il conclu. L'Iran et les autres signataires de l'accord de 2015 sont toujours engagés dans des pourparlers intenses visant à relancer l'accord historique. Téhéran réitère sur le fait qu'il ne franchira pas ses lignes rouges pendant les négociations. À Vienne, nous avons clairement fait savoir à l'Occident, lors des réunions diplomatiques ainsi qu'au coordinateur de l'Union européenne, Josep Borrell, que nous ne franchirons pas notre ligne rouge lors des pourparlers de Vienne et que nous le montrerions fermement. Amir Abdullahian a déclaré que les pourparlers avaient atteint un niveau sensible, ajoutant que quelques questions très importantes n'avaient pas encore été résolues. Le très haut diplomate iranien a ajouté que Téhéran poursuivra les négociations tant qu'elles seront utiles, censées aboutir à de bons résultats. Le responsable iranien a noté que Téhéran avait reçu plusieurs demandes de la partie américaine pour des pourparlers directs, mais a-t-il ajouté, la rhétorique seule ne suffisait pas et que Washington n'avait jusqu'à présent pas pris de mesures concrètes pour montrer sa bonne volonté. Le 8e cycle des négociations pour établir l'accord est en cours à Vienne, la capitale autrichienne. La crise ukrainienne, les ingérences de l'OTAN menées par les États-Unis ont compliqué la situation, a déclaré Téhéran. Réagissant aux dernières évolutions d'hier soir en Ukraine, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré « Les interventions et les agissements provocateurs de l'OTAN menés par les États-Unis ont rendu la situation dans la région plus compliquée. Concernant les derniers développements en Ukraine, le diplomate a déclaré « Nous suivons de près et avec sensibilité les évolutions. » Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a ajouté « La République islamique d'Iran appelle toutes les parties à faire preuve de retenue et estime que toute action susceptible d'aggraver les tensions doit être évitée. » Khatibzadeh a appelé toutes les parties à œuvrer pour un règlement pacifique du conflit par le dialogue et a ajouté « Malheureusement, les interventions et les provocations de l'OTAN menées par les États-Unis ont compliqué la situation dans la région. » Enfin, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran rencontre son homologue omanais. Badr ibn Hamad al-Boussaidi, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, s'est rendu à Téhéran aujourd'hui, mercredi 23 février, pour encore quelques heures. Lors de son déplacement à Téhéran, le chef de la diplomatie omanaise a rencontré le très haut diplomate iranien Hossein Amir Abdollahian. Les deux hommes assisteront à une conférence de presse après la réunion. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Macron Raïssi, les non-dits. Après que les diplomates iraniens eurent insisté sur les revendications légitimes du pays, en rejetant le paquet d'offres déraisonnables des Occidentaux, le président français Emmanuel Macron, dont le pays assume actuellement la présidence par rotation du Conseil de l'Union européenne, a eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Ibrahim Raïssi. Manière de demander à la partie iranienne de mettre un bémol dans ses revendications, d'ailleurs raisonnables, lors des négociations. Le site web de l'Élysée a écrit que M. Macron a demandé à son homologue iranien d'agir dans le sens d'accélérer le processus des pourparlers à Vienne. La réponse du président Raïssi à l'étrange demande du mauvais flic des négociations a été négative. C'est avec une fermeté impressionnante qu'Ibrahim Raïssi, au cours de son long entretien téléphonique, a reproché à l'Occident son approche politique maximaliste au cours des 20 dernières années, mettant en garde contre les complots du régime sioniste, mais aussi contre les conséquences d'un suivisme aveugle aux politiques israéliennes. Cette réponse a évidemment déplu au M. Macron, à tel point que le ministère français des Affaires étrangères a préféré ne pas publier des informations complémentaires sur les détails de la conversation téléphonique des deux chefs d'État. Le nom de Raïssi à Macron est le signe que les Américains vont devoir parcourir un plus long chemin afin de pouvoir revenir à la table des négociations sur l'accord nucléaire. Les Occidentaux ont beau essayer de formater comme ils veulent les négociations en évoquant des questions telles que l'échange des prisonniers ou divers dossiers régionaux dans l'espoir d'en faire sortir des résultats escomptés. Le format des négociations est notre dernier souci en Iran, écrit le site d'information d'analyse politique Macher News. Peu importe que le président Biden des États-Unis ait besoin, pour embellir son bilan politique, de se faire une jolie vitrine basée à la fois sur ce qui sort de la salle des négociations à Vienne et la façon dont sont formatés les pourparlers, l'approche de la République islamique d'Iran concernant la marathon de négociations repose uniquement sur leur issue. Pour les Occidentaux, c'est la forme des pourparlers qui compte. Pour les Iraniens, c'est absolument l'objectif des pourparlers qui compte. M. Macron est censé connaître entièrement les points de vue de Téhéran. Il suffit que la partie iranienne réalise à n'importe quel moment des négociations que les pourparlers de Vienne ne correspondent pas aux objectifs envisagés. Elle annonce au camp d'en face la fin des négociations sans aucun compliment diplomatique. Toujours est-il que, lors de l'entretien avec Raïssi, Macron a essayé de pêcher en eau trouble en demandant la remise à la liberté de quelques espions européens en Iran. Or, Paris ne serait pas pour l'instant bien placé pour imposer des préalables à un document à l'horizon toujours assez ambigu. De la même manière que le règlement de certaines questions d'ordre politique liées à l'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA compte pour les négociateurs occidentaux à Vienne, l'Iran aussi insiste à dire que certaines impasses politiques liées au groupe d'action financière GAFI doivent être réglés. La déclaration finale de la future réunion du GAFI à Paris devra retirer le nom de l'Iran de la soi-disant liste à haut risque, sinon aucun accord à l'avenir ne garantira que l'Iran puisse pleinement profiter des avantages prévus l'article 29 de l'accord de 2015.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur ce discours du secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Seyyed Hassan Nasrallah qui a réaffirmé dans son discours que l'avenir de la région se dirige sur une voie entièrement différente de celle prévue par certains protagonistes régionaux et internes et sur lesquels il prévoit leurs calculs. Et toujours dans son discours, Seyyed Hassan Nasrallah, s'agissant de ces crises sociétales que traverse le régime israélien, a dit, je cite le secrétaire général du Hezbollah libanais, dans l'entité de l'occupation, la volonté des Israéliens de supporter davantage les dangers de combat semble se rétracter. Il en est de même pour leur confiance à l'égard de l'armée et des institutions étatiques. De même, l'immigration inverse connaît une nette recrudescence, a souligné Seyyed Hassan Nasrallah. Et plus loin dans son discours, s'agissant des capacités militaires de la résistance libanaise, Seyyed Hassan Nasrallah a surtout précisé que la résistance était parvenue à en fait transformer cette menace proférée par le régime israélien en une opportunité, s'agissant, si vous voulez, des frappes menées contre des positions, si vous voulez, en territoire syrien, en disant que voilà, nous avons transformé les milliers de missiles dont nous disposons en missiles de précision. Seyyed Hassan Nasrallah a fait également un autre point important, comme quoi la résistance libanaise dispose désormais de la technologie de fabriquer des drones sur place. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi au téléphone depuis Bruxelles un géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour à vos collègues et à vos téléspectateurs.
Merci beaucoup. Et l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales qui est avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Il s'agit de Maître Eliatem. Maître Atem, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, merci de votre invitation. Mes salutations également à Monsieur Michel et à tous vos téléspectateurs.
Et Maître Atem, comme première question, quelle évaluation portez-vous sur ce récent discours de Seyyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah de libanais, s'il vous plaît?
Oui, vous savez, Monsieur Nasrallah, il a fait un résumé de la situation actuelle. Autrement dit, il a rappelé des éléments qui sont très importants, à savoir que, premièrement, il y a un mouvement de résistance nationale au Liban, auquel fait partie, ou duquel fait partie donc son parti, c'est-à-dire le Hezbollah, parce que, comme vous l'avez souligné, on parle plutôt de ce qu'on appelle d'un mouvement de résistance, autrement dit des Libanais qui se sont toujours opposés aux attaques et à l'occupation de leur pays par Israël. Il l'a d'ailleurs rappelé, M. Nasrallah, hier dans son discours, que les Libanais, le mouvement de résistance libanaise, est un mouvement défensif et pas du tout offensif. Parce qu'à aucun moment donné, le Liban n'a attaqué Israël. Or, Israël a toujours trouvé des prétextes pour s'attaquer aux frontières libanaises. Et à l'époque, Raymond Hédé disait que Israël avait une dent ou deux dents, en fait, contre le Liban. Premièrement, parce que sa société et ses institutions sont diamétralement opposées. C'est un peu comme deux lignes parallèles avec une société multiconfessionnelle libanaise qui s'est constituée depuis des milliers d'années. Et donc, ce modèle-là est en opposition à l'ethnocratie israélienne créée par cette idée d'un État simplement pour une ethnie créée, comme d'ailleurs M. Shlomo Sand, l'écrivain israélien, l'avait très bien souligné sur la création, entre guillemets, de ce peuple juif. D'un autre élément aussi dont Israël a une dent contre le Liban, c'est sa richesse en eau, auquel s'est ajouté également ce problème aujourd'hui qui est celui de la découverte donc de pétrole. Donc ce sont les deux éléments qui ont toujours poussé Israël à s'attaquer au Liban, à la société libanaise par l'intermédiaire de toute cette campagne qui s'est faite contre la nation libanaise, qui est une nation plus que millénaire ou doublement donc millénaire. Le Liban est cité d'ailleurs plus de 70 fois dans la Bible. Donc, ça, c'est le premier constat. La deuxième chose, c'est que dans le discours de M. Nasrallah, il a rappelé, compte tenu de cette envie israélienne toujours de mener la guerre, toujours de s'attaquer au Liban, il a montré une formule, je dirais, dissuasive, en disant, écoutez, si vous continuez, si vous voulez nous attaquer, nous sommes en mesure de répondre. Certainement, et c'est là une question qui est très importante pour vos téléspectateurs, l'armée libanaise est incapable aujourd'hui, l'armée officielle, d'avoir les armes nécessaires pour s'opposer aux agressions israéliennes. Pour quelle raison? Car les armes, les munitions de l'armée libanaise proviennent des États-Unis. Or, comme vous le savez, les États-Unis ont pour allié principal Israël dans la région et n'a jamais permis à l'armée libanaise d'avoir des armes lui permettant de s'opposer aux agressions israéliennes. Donc, c'est la raison pour laquelle que le mouvement de résistance nationale, comme c'était un mouvement de résistance nationale également en France, a pris en charge, et c'est tout à fait légitime, et un consensus libanais, il y avait un consensus libanais aujourd'hui, les agents israéliens, comme d'ailleurs le reconnaissent les officiels israéliens sur les chaînes il y a deux jours, ou depuis avant-hier, quand ils ont parlé que nous sommes en train d'envoyer de plus en plus, de recruter des agents locaux pour détruire, je dirais, cette résistance libanaise. Alors, le discours était très clair de Sayed Nasrallah en disant, attention, faites attention, c'est que nous sommes capables de transformer déjà les munitions que nous avons pu obtenir d'autres puissances que les Américains, autrement dit par l'Iran, même si l'Iran est incapable aujourd'hui de nous donner des armes beaucoup plus sophistiquées, même si d'autres États, la Russie ou la Chine ou les autres, sont incapables de le faire, nous pouvons transformer nos munitions et puis surtout nos fusées en fusées qui sont beaucoup plus sophistiquées pour pouvoir répliquer, répondre à vos agressions. Deuxièmement, nous sommes prêts aujourd'hui également à construire des drones pour voir, pour vérifier vos capacités militaires et prévenir les attaques. Donc ça, c'est la première partie donc, de son discours. La deuxième partie de son discours, il a rappelé que le Liban et la résistance nationale, c'est un pays qui est défensif, c'est un pays qui est tout à fait pacifique, mais il ne peut que répondre à ces agressions. Et d'ailleurs, comme vous le savez, à plusieurs reprises, c'était le général de Gaulle qui, en 1968, avait dit que tant qu'il était en vie, il ne permettrait jamais à cette entité artificielle, et je reviendrai, c'est la deuxième partie du discours de Sayed Nasrallah, d'attaquer le Liban et de détruire en fait sa société et de s'attaquer également à son aéroport. C'était à l'occasion de Merci. L'attaque de cette armée israélienne contre l'aéroport de Beyrouth. La deuxième partie,
Maître Atem, avant en fait de revenir sur cette deuxième partie du discours de cet Hassan Nasrallah, permettez-moi d'avoir l'approbation, s'il vous plaît, de Luc Michel également. Je reviendrai vers vous, en fait, plus tard. Luc Michel, venez d'entendre l'analyse de Maître Atem. Votre autre lecture des faits, s'il vous plaît.
Mais le cœur du discours de Nasrallah, c'est qu'il souligne le tournant qu'a été la guerre de 2006 entre Israël, le Hezbollah, le Libanais. C'est en 2006 que le Hezbollah et ses alliés iraniens ont inventé ce qu'on appelle la guerre hybride, qui est la forme moderne de la guerre. À partir de ce moment-là, la guerre classique que dominaient les Israéliens n'a plus été de mise. La caractéristique de cette guerre hybride, c'est la fin de la domination stratégique des États-Unis sur le ciel du Levant, au Liban, en Syrie, etc. Nasrallah évoque les renforcements des capacités de domination du ciel des Libanais, mais également des Syriens et notamment des investissements de leurs alliés russes dans ce domaine. C'est terminé la toute-puissance israélienne dans le ciel. C'est tout terminé. Les menées israéliennes qui étaient menées impunément dans le ciel au-dessus du Liban et au-dessus de la Syrie. Et aujourd'hui, on vient au retour à une forme de parité stratégique telle qu'elle existait lors de l'ancienne guerre froide entre la Syrie de Hafez el-Assad allié de l'Union soviétique et les Israéliens.
Luc Michel, avant en fait de revenir vers Maître Atem, en fait, s'agissant de cette guerre hybride à laquelle venait en fait de faire allusion, Seyyed Hassan Nasrallah souligne en fait sur ce point que la résistance est désormais en mesure, si vous voulez, de fabriquer des missiles de précision, également des drones sur place. Ça va changer l'équilibre de force entièrement, n'est-ce pas, Luc Michel?
Écoutez, l'irruption des drones dans la guerre moderne, c'est ce qui a changé le visage de la guerre dans plusieurs théâtres d'opération. Par exemple, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans la guerre du Karabakh, puisque la fourniture par les Israéliens cette fois-là et les Turcs de drones à l'Azerbaïdjan a permis à celle-là de reconquérir des territoires, la guerre des drones, elle domine toutes les guerres modernes et malheureusement, ça a longtemps été une prérogative, bien entendu, des Occidentaux. Mais maintenant, le bloc de l'Est est capable de fournir des drones performants. On l'a vu, par exemple, dans la guerre de sécession du Tigré entre l'Éthiopie et les alliés par procuration de l'Occident, que seront le soi-disant Front de libération du Tigré. Là-bas, c'est l'Iran qui a fourni des drones à l'Éthiopie, mais c'est également d'autres partenaires. Cela change complètement le visage de la guerre et cela fait que la domination du ciel par l'aviation classique n'est plus un élément déterminant.
Maître Atem, la parole est à vous pour en fait de nous parler de cette deuxième partie du discours de Seyyed Hassan Nasrallah, s'il vous plaît.
Tout à fait, mais si vous le permettez, j'ai une petite remarque, si je le permets, en ce qui concerne les propos donc, de M. Michel quand il a parlé de la guerre entre Israël et le Hezbollah. Moi, je dirais que Israël, c'était pas son objectif, n'a jamais été simplement le Hezbollah, parce qu'en 1968... Et le Hezbollah était inexistant. En 1975, le Hezbollah était inexistant. Même en 1982, son objectif, quand Israël est venu, il a occupé le Liban. Le Hezbollah était une petite milice, ce n'était pas encore l'une des forces les plus importantes du mouvement de résistance nationale. Donc, je reviens à ce point qui est assez important. Israël a toujours une velléité vis-à-vis donc, de la société libanaise multiconfessionnelle, et puis surtout ce modèle libanais qui est à l'opposé de ce modèle artificiel israélien, de ce qu'on appelle l'entité israélienne. La deuxième partie donc du discours de M. Nasrallah, et la première fois d'ailleurs depuis donc le début donc de ses interventions politiques jusqu'à aujourd'hui, où il a évoqué un élément qui est très important, qui n'est pas un secret de Polichinelle, et c'est d'ailleurs l'une des grandes préoccupations des Israéliens ou des sionistes, je dirais, c'est cette fameuse création artificielle d'une entité, d'une nation israélienne. Parce qu'il faut tout d'abord, il faut rappeler en deux mots ce fameux débat qui a eu lieu depuis le début, le départ, vous savez, de cette notion donc du judaïsme politique qui est, je dirais, qui est antérieur au sionisme, qui a débuté au début du 19e siècle, avant l'arrivée donc officielle donc du sionisme, c'est-à-dire à savoir si le judaïsme est une religion ou une nation ou un peuple. Donc Shlomo Sand le rappelle dans son ouvrage. Il a fallu donc la création officiellement sioniste internationale pour continuer, qui on a appelé l'entité sioniste, et puis qui est un ramassis, je dirais, de peuples qui sont venus de tout le monde. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, la meilleure solution, c'est pour régler ce problème-là, et on le voit, c'est une solution naturelle, c'est une réémigration, donc, de ces émigrés qui sont venus par des poussées de fondamentalisme et par des opérations qui ont été menées par les services de l'Irgun à l'époque, la Haganah, et puis tout cela, si vous voulez, pour pousser ces différentes populations à aller en Palestine et créer cette entité en poussant donc les autochtones, donc les Palestiniens, surtout les chrétiens, les autres communautés, à quitter le territoire. On a assisté par la suite également à une déportation après la Seconde Guerre mondiale qui a renforcé ce mouvement sioniste. Or, aujourd'hui, tous les savants, tous les penseurs, tous les gens donc, qui sont en train de travailler sur ces questions, y compris des Israéliens, il a d'ailleurs, M. Netanyahou, se pose des questions sur de cette entité artificielle qui est constituée de plusieurs peuples, d'ailleurs, qui viennent de plusieurs pays. Parce que moi, je considère aujourd'hui un Français qui est de religion juive comme un Français et non pas comme un Israélien. Et aujourd'hui, nous avons même un candidat qui est de religion juive à la présidence de la République. Donc tous ces peuples-là doivent retourner à leur pays d'origine. Ils sont en train de le faire, comme l'a rappelé M. Nasrallah, en se fondant, en fait, sur des documents, sur le dossier, en fait, d'Israël. Et ce que, d'ailleurs, les officiels israéliens et même les télévisions ont reconnu chez lui, c'est cette force, en fait, d'expliquer la situation en Israël. Donc, nous assistons aujourd'hui à la fin, à l'apocalypse, je dirais, de cette entité artificielle qui est en train de se disloquer, et elle se disloquera de plus en plus, et c'est la raison pour laquelle M. Nasrallah a rappelé que le Liban n'attaquera jamais Israël, parce que Israël est en train, si vous voulez, de s'attaquer de l'intérieur avec cette dislocation de cette société artificielle, de ces différents problèmes, des problèmes sociologiques, mais aussi des problèmes économiques, et puis elle est en train, je dirais, de s'effondrer progressivement. Alors, selon les religieux juifs, donc cette notion messianique, on dit toujours que les juifs n'ont jamais pu obtenir un État ou constituer un État plus de 80 ans. Bon, ce sont des considérations religieuses que je mettrai moi-même de côté, mais réellement, d'un point de vue sociologique et d'un point de vue politique, tout le monde le sait, et je dirais avec tout le respect que je dois à M. Nasrallah, bon, il n'a pas inventé le tiède. Tout le monde sait que Israël est en train, cette entité sioniste est en train de plus en plus donc de s'effondrer, surtout avec ces nouvelles Merci. Générations qui ne comprennent pas pourquoi maintenir cet artifice chez eux.
Monsieur Luc Michel, en fait, c'est Hassan Nasrallah a fait allusion, comme l'a dit tout à l'heure, Maître Atem, à cette immigration inverse qui
en fait, commence à s'accélérer nettement, qui connaît en fait une recrudescence, pour employer en fait l'expression de Seyyed Hassan Nasrallah. Et Maître Atem dit que voilà, il y a désormais ceux qui s'interrogent, si vous voulez, sur la survie de l'entité israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Michel?
Ben écoutez, la question du devenir d'Israël, elle est posée par le sionisme lui-même. Lorsque nous étions dans les années 1980, il y avait eu un grand débat parmi les historiens israéliens. C'était une comparaison entre le devenir d'Israël et la disparition de ce qu'on appelait les États francs du Levant, c'est-à-dire les États créés par les chrétiens au moment des croisades, qui ont existé entre 1999, la première croisade et la prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon, et la disparition en 1270 des derniers États chrétiens. Les historiens israéliens disaient que probablement il n'était pas impossible qu'Israël connaisse le même sort, c'est-à-dire qu'on rejette les Israéliens à la mer comme les Francs avaient été rejetés à la mer. Mais ce qui a permis justement la remise en question du devenir israélien, c'est précisément l'émergence du Hezbollah en 2010 comme une grande puissance militaire et la guerre hybride. Justement, la guerre hybride, parce qu'elle est une guerre qui met en cause, c'est une guerre qui est pratiquée dans tous les domaines, y compris dans les domaines historiques existentiels, économique et humain, c'est ce qui remet en cause Israël, évidemment, exactement comme la guerre hybride russe remet en cause la domination occidentale en Afrique et en Europe centrale particulièrement. C'est cela qui est le facteur déterminant. Et l'histoire retiendra qu'au départ d'une guerre qui est menée par les Israéliens contre l'existence même du Liban, c'est un mouvement politico-militaire, le Hezbollah, qui en émergeant va remettre lui en cause l'existence même d'Israël.
Et Maître Atem, nous avons en fait une minute devant nous. Le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît.
Oui, alors le mot de la fin est très simple. C'est qu'aujourd'hui, il y a une opposition entre deux modèles, et ça se voit, et c'est ce que M. Nasrallah a très bien souligné. Nous avons un modèle ethnocratique artificiel qui est créé par le sionisme, et je dirais même avant le sionisme, par le judaïsme politique, et vous avez en face une nation avec un peuple qui existe, qui s'est formé à travers les siècles, c'est-à-dire cette entité libanaise qui, depuis même avant les croisés, depuis depuis l'existence en fait de la Samarie et d'Israël, existait déjà, avec ce brassage de civilisation et de culture qui a créé cette culture particulière libanaise et qui est, je dirais, l'épine au pied de cette entité israélienne qui cherche par tous les moyens à assassiner la nation libanaise.
Merci infiniment de Maître Eli Atem d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Paris par Skype. Mes vifs remerciements vont également à vous, Luc Michel, géopoliticien belge spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission au téléphone depuis Bruxelles. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Zandalan, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Détruire l'Europe pour détruire la Chine et la Russie. Depuis plusieurs années, les élites européistes mènent des politiques dont l'effet à court terme est de réduire le pouvoir d'achat des populations. À moyen et long terme, cela a provoqué une destruction de la classe moyenne européenne. Le phénomène a pris de l'ampleur avec l'entrée en service de l'euro qui a pour effet de détruire le tissu industriel, du moins a coïncidé avec la délocalisation massive des emplois industriels. Cela n'est pas sans rappeler la découlakisation, une politique de destruction des petits fermiers par les bolcheviks après la révolution russe. Un tel acharnement des élites mondialistes sur leur propre population peut laisser songeur et si on ignore les desseins qui sont visés. Détruire les consommateurs de biens manufacturés chinois et ceux de l'énergie russe afin de stopper le développement économique de ces deux pays et les mettre à genoux financièrement. Au passage, cela permettrait de reprendre la main sur le système politico-économique à travers la grande réinitialisation ou Great Reset. Détruire l'Europe pour détruire la Chine. L'Europe est le marché d'avenir de la Chine qui a commencé un découplage forcé en urgence avec les États-Unis. Il y a plusieurs raisons à ce découplage. La première, c'est que le dollar est de plus en plus perçu comme une monnaie de singe par les élites chinoises. Si les énormes réserves permettaient d'acquérir la technologie occidentale, la Chine a quasiment rattrapé son retard technologique. Elle n'a plus besoin d'importer en masse la plupart des technologies qu'elle fabrique très bien localement. La seconde raison de ce découplage économique, c'est que la Chine, ne voulant plus se cantonner dans leur rôle d'atelier pour produits à bas prix, vise un public plus nanti. Or, la situation de la classe moyenne américaine, si on peut encore parler de classe moyenne, est désastreuse. Les emplois sont précaires et le niveau d'endettement des ménages est intenable. Les États-Unis ne sont plus un marché viable à long terme. La troisième raison, et qui a accéléré ce découplage des deux économies, c'est la guerre commerciale déclenchée par l'équipe Trump pour faire plier la Chine au désir des transnationales américaines. Pour réduire les vulnérabilités de leur économie, les dirigeants du Parti communiste ont entrepris de se concentrer sur le marché européen, comptant 500 millions de consommateurs et où le pouvoir d'achat est encore relativement élevé. Pour ce faire, ils ont développé le projet des routes de la soie. Des corridors terrestres et maritimes constitués d'autoroutes, de chemins de fer et de ports pour d'une part contourner les voies contrôlées par l'US Navy
et d'autre part, raccourcir le temps de transit des marchandises de la Chine jusqu'en Europe. La Chine, pour continuer à se développer, a donc misé sur le marché européen de 500 millions de consommateurs avides de consommer. C'est là qu'entrent en jeu les mondialistes. Ayant échoué à faire plier la Chine devant leur desiderata, ils ont décidé de plomber l'Europe économiquement. C'est la stratégie de l'attrition du marché, c'est-à-dire réduire le nombre de personnes susceptibles d'acheter les produits chinois. En détruisant la classe moyenne européenne, ils détruisent par la même occasion le marché sur lequel compte l'empire du milieu pour continuer à se développer. Pour rappel, la Chine a su éviter le piège du revenu intermédiaire autour de 5 000 $ US par habitant que les élites occidentales lui ont prédit puisque le PIB par habitant chinois se situait déjà autour de 16 000 $ US par habitant en 2017. Détruire l'Europe pour détruire la Russie. Pour saper l'économie européenne, les États-Unis s'y prennent de deux manières. Brider les transnationales européennes et entraver leur essor, voire les racheter pour empêcher l'émergence de géants non anglo-saxons et couper l'Europe d'une énergie bon marché, c'est-à-dire russe, pour tuer ce qui lui reste d'industrie avec les emplois qui vont avec. Détruire l'Europe économiquement signifie tuer un marché avec lequel la Russie a réalisé 40% de ses exportations et 35% de ses importations en 2020. Perdre un tel partenaire du fait de son insolvabilité serait un coup dur pour l'économie russe. Certes, elle pourrait s'en passer si elle en était contrainte. Mais cela demanderait énormément de temps pour trouver de nouveaux débouchés pour le pétrole et le gaz et de nouveaux fournisseurs pour les biens d'équipements et produits chimiques européens et provoquerait d'énormes désagréments à court terme. Ou peut-être pas. Un plan perdu d'avance. Le plan des élites mondialistes est très simple quand on l'observe et il se décline en trois objectifs principaux. Détruire l'économie chinoise, détruire l'économie russe, reprendre le contrôle de la mondialisation qui leur a échappé à l'aide du Great Reset et de son pendant économique, le Green New Deal. Les deux premiers objectifs, déjà traités, n'ont guère de chance de réussir car les deux puissances ciblées l'ont déjà anticipé, ont pris leur disposition. Aujourd'hui, les deux partenaires travaillent en étroite collaboration et leurs actions et déclarations sur la scène internationale sont coordonnées, y compris la récente demande russe de garantie de sécurité écrite et contraignante aux États-Unis. Pour amortir un éventuel reflux de ses exportations, la Chine a changé de modèle économique en passant d'un système tourné vers les exportations à un autre reposant, cette fois, sur le marché intérieur avec comme cible une classe moyenne évaluée à 400 millions de personnes en 2021, soit plus que le marché américain et presque autant que le marché européen, et projette d'atteindre 800 millions de personnes en 2035. Ce modèle est chapeauté par le Made in China 2025, un plan destiné à faire de la Chine le leader mondial en matière de technologie à un moment où son leadership économique serait enfin reconnu par les Occidentaux. La Chine est la première puissance économique en termes de PIB, PPA, depuis 2014. Et devinez quel est le centre technologique de ce plan technologique? Wuhan. En ce qui concerne la Russie, elle ne peut être mise à genoux économiquement tant que la Chine est debout. N'ayant aucun intérêt à voir sa voisine écrasée être la suivante sur la liste, on imagine mal la Chine ne pas soutenir cette dernière. Surtout que le secteur en question, l'énergie, demeure un enjeu stratégique pour l'économie chinoise qui a besoin de sources d'énergie abondantes et bon marché pour maintenir sa croissance économique. On peut donc supposer qu'en cas de disparition du marché européen, la Russie disposerait d'un autre client pour reprendre la relève. Quelques faits plaident en faveur de cette thèse, comme le méga-projet gazier Force Sibérie de 400 milliards de dollars US sur 25 ans entré en service en 2019. Et la dépendance dans ce cas serait mutuelle, donc équilibrée. pour les biens manufacturés européens qui ne seraient plus disponibles, la Chine pourrait les fournir, le temps que l'industrie russe achève sa politique de substitution aux importations, pour laquelle l'Union européenne a déposé une plainte auprès de l'OMC. Le troisième objectif est la raison pour laquelle il échouera saute aux yeux. Il ne peut y avoir de Green New Deal et nouvelle mondialisation verte si la Russie et la Chine ne sont pas vaincues. Or, c'est précisément ce que nous venons de voir. D'ailleurs, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont clairement envoyé une fin de non-recevoir à Two Great Reset lors du dernier forum de Davos, tenu en 2021. Donc, fin de la partie.